Boker Tov Lekulam. Boker Tov Lekulam. Il manque plein de chaises. Qu'est-ce qui se passe ici?
Il y a eu hier une Brit Mila, une grande Brit Mila. Ils ont fait un gros truc. Le problème pas très sale.
C'est
on a décidé de ramener les chaises. Mais
bien fait, merde.
Il va venir tout à l'heure à 11h et il va nettoyer la salle. Voilà, qui est au courant.
Je suis au courant de tout. Ça fait plaisir. Tov, eh bien alors les amis, allons-y. C'est parti. Nous sommes donc dans l'étude du Rav Kook dans Sefer Oroth. Alors, on avait commencé la Piska Yud, la dernière Piska de la partie Amilchama, de la seconde partie du bouquin, mais on n'avait pas terminé et donc on va la reprendre parce que c'est une Piska quand même qui est très importante et qui vient conclure finalement tout le Mahalach de Oroth Amilchama. Donc, ça vaut le coup de revenir dessus. Page Yud Zayin. Ok? Page Yudzaïn, on est bon? Bigedulat haolam. Beofat aziv shel kedushat Israël beromemuto. En achiza lechol zonim, lechol haomdim mibachutz, levases eize mosad adochek ragle or Israël, levatser eizo eara mistit mechona emunit. אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה כבודה ושיפת תקרת קודשה. פסים. Alors revenons, deux secondes. בגדולת העול. Quand le monde est grand. Ça veut dire quoi quand le monde est grand? כשיש שכינה. Quand il y a la présence divine. כשיש הופעת הזיו של קדושת ישראל ורוממותו. Donc c'est quoi cette histoire de... Ziv, Romemut, Hachem, c'est quoi cette histoire? On avait expliqué la semaine dernière que le Ziv, c'est l'éclat, le rayonnement qui vient du visage. Ok? Dans le visage, il y a un rayonnement très particulier. Ok? Ziv shel kdushat Israël be Romemuto, c'est-à-dire Israël. Qu'est-ce que ça veut dire en français Israël? Ben, il sera un Dieu. Il sera elle. Ah non, c'est pas ça. Yachar El. Yachar El à El. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement direct du lien avec le Créateur. Donc ça, c'est normalement. Beolam Gadol. Bigdulat Haolam. Quand on en est là, alors, En Achiza Lechol Zonim. Lechol Omdim Mibachut. Quand Israël est sur sa terre, qu'il est fort, qu'il respecte la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, aucune influence extérieure ne peut venir nous embêter. Et ne peut amoindrir la lumière d'Israël. C'est quoi une influence extérieure? Les peuples. Les peuples, les différentes religions.
Les Arabes.
Pas que. Non, pas que, justement. Comprenons bien, en français ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand yesh Ruach HaKodesh, quand yesh Shrina, il ne peut pas y avoir d'autres religions.
Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont voulu utiliser les musulmans contre les juifs et que c'est en train de se retourner contre.
Ouais, mais ça c'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, d'où ça vient? D'où ça vient que les chrétiens se servent des musulmans pour attaquer les juifs? La racine de ça, tu la trouves où? Esav, qui quoi? Non, là, oui, mais aucun rapport avec Ishmael. Et Aaron, Esav qui va aller chercher la fille de Ishmael. Ça a l'air? Mais d'accord, mais là je te parle pas seulement au niveau de l'attentat. C'est-à-dire, je te parle pas au niveau seulement des actes antisémites qui viennent embêter Israël.
Quand ils ont voté, une partie des pays qui ont voté, ils ont dit
c'est ils vont de toute façon, ils vont pas tenir, ils sont entourés d'un. Mais ça, d'accord, d'abord. Mais je parle pas seulement du danger physique. Il y a plein d'influences qui viennent sur le qui pourraient influencer en mal le dévoilement divin. Il y a plein de pas seulement les bolélout encore une fois. Je parle ici des influences au niveau spirituel également. C'est-à-dire tout ce que vous dites c'est vrai, mais il y a aussi non mais les bolélout d'aujourd'hui du 21e siècle c'est les bolélout mais t'as rien d'autre. C'est-à-dire t'as abandonné l'identité d'Israël, mais qu'est-ce que t'as rempli à la place? Rien du tout. Mais moi, je te parle de l'influence, par exemple, du christianisme, de l'islam en tant que tel, pas en tant que gens qui vont venir nous attaquer. Mais toutes ces idéologies qui pourraient venir remplacer l'idéologie du dévoilement divin. Ok ? Donc il te dit, quand tu es au top, il ne peut pas y avoir d'influence extérieure. D'accord ? Parce que c'est clair pour tout le monde que la lumière vient d'Israël.
C'est quoi être au top ?
Être au top, j'ai dit, c'est un, quand le peuple juif est retourné chez lui. Deux, quand il est fort au niveau politique. Trois, quand il est fort au niveau de sa relation avec Dieu. Quatre, quand il y a le dévoilement divin. Shrina. Ouais, bah, la Shrina, il n'y a que Dieu qui peut la donner.
Voilà, donc...
Ah ben, de toute façon...
Est-ce qu'il pourra bien la donner ?
Bah, faut voir, je ne sais pas. Il nous a déjà donné le retour à la maison. Il nous a donné un pays fort. Et il nous a donné la possibilité de revenir à lui.
Alors, on a envie de croire que c'est ce qu'on va faire qui fera que la
Shrina... Ah ben, c'est évident qu'il y a une date butoir où Akadosh Baruch Hu, il emmène sa Shrina quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, c'est l'an 6000. Qui va ?
Qui pourrait brûler.
Brûler quoi ?
Brûler ceux qui n'ont pas été sur son chemin. Non, il met une Shrina, c'est un...
Non ! C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu, il veut emmener son dévoilement, alors Motsi Chama Minarchika, Vetsadikim Mitrapim Ba, Vershaim Donim Ba. Ça veut dire qu'ils vont disparaître. Ils vont, voilà, ils vont être obligés de faire Tchouva. Hein ?
Il ne le fait pas tout de suite, le résultat, sauf sera le même.
Parce qu'il veut que tu participes.
D'accord.
Mais donc, que, sauf, si... donc j'ai dit, il y a sauf une date butoir, on peut le faire arriver avant. C'est tout le concept de Be'ita Achishena. La Géoula, elle est soit en son temps, soit avancée. Ça dépend de nous. Ok ? Donc, quand on est au top, il ne peut pas y avoir de En Achiza le Chol Zonim, le Chol Omdim Ibachutz. לבסס איזו מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר הערה מיסטית, ou alors une מכונה אמונית, de faire rentrer une nouvelle אמונה dans le peuple juif. אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושיבת יקרת קודשה. Ok? בגלות, bien sûr qu'on a eu plein d'influences, ok? qui ne sont pas forcément positives. אוקיי, כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד שיסודו עליון, אור אמת בבחירתו, חי בו. הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו אמו ותרועת מלך בו. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On nous dit, la lumière עליון, donc la vraie lumière grande et supérieure. Veziv ayichud ameuchad. C'est quoi le ziv ayichud ameuchad? C'est que Knesset Israël ne fasse plus qu'un avec le dévoilement divin. C'est ce que les Mekoubalim appellent l'Eshem Yichud Kutcha Berichu Ushrinte.
On n'avait pas tout à fait, on est presque pas encore.
Bezrat Hashem. Maintenant, dans le langage. Dans la traduction du langage kabbaliste, donc Kutcha Berihu, c'est le dévoilement divin, la Shrina, Shrinte, c'est nous, Am Israël, et donc il faut qu'il y ait un Yichud Meyuchad entre les deux. Comment ça marche ? Eh bien, il y a deux formes de Yichud Hashem.
Yichud, c'est
Réunion. Belashon Echad. Donc il y a deux formes de Yichudim. Il y a ce qu'on appelle Yichud Elyon, et c'est de cela que parle ici le Rav Kook. Et il y a ce qu'on appelle Elyon, c'est haut.
Al.
Ouais, Elyon, mais Al. Et il y a Yichud Tarton, en bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Yichud Elyon, c'est Yud Vehei. Yichud Tarton, c'est Vav Vehei. Vous savez que le tétragramme, il est formé de 4. Yud, He, et ensuite Vav, He. Donc, Yichud Elyon, c'est Yud Ke, et Yichud Tarton, c'est Vav Ke. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yichud Elyon, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, et Yichud Tarton, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahe.
Il y a un rapport entre Vav Ke et Baruch.
J'y viens.
Il est né à 7 mois.
C'est pas grave.
Non, c'était pour dire que Yud-Kei, j'ai jamais deviné le rapport.
Alors c'est quoi, vas-y.
Non, c'est
Ah, c'est plus, c'est moins facile, hein.
Yud
vehei, c'est shifte ya. Les tribus d'Israël, s'appellent dans la Tanakh shifte ya. Il a fait. Donc, d'accord. Donc, ça veut dire que yud vehei, c'est le dévoilement divin par l'intermédiaire de shifte Israël. Yud vav. Non, yud hei. Yud hei.
Parce qu'il y a shifte Israël. En fait, Israël et Ya, c'est.
Autant d'avant, t'as compris. Donc c'est pour ça que Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, le dévoilement de Dieu passe par Israël. Donc yud vehe, c'est le dévoilement par Israël. Vav vehe, c'est yichud tachton, baruch shem kevod malchuto, leolam vaeh. Mais c'est le Olam Vaed, ça passe pas par Israël. Pas forcément, du moins par Israël. Vaed,
c'est
l'éternel. Vaed, c'est pour l'éternité. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas ici dans cette phrase, Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Vaed, il n'y a pas la notion d'Israël. Donc ça veut dire que normalement, il faut un Yichud, mais Yuchad, c'est-à-dire entre Yud Vehe et Vaveh. Le titre Aram, il doit être complet. Mais, nous dit le Rav Kook, Bagalout, on est réduit à Yichud Tarton. Et donc, bah, d'autres identités peuvent prétendre à dévoiler le divin. Ok ? Parce qu'il n'y a pas la notion d'Israël qui est mise en avant. Bah, forcément, Israël est bafoué à ce moment-là.
Ça reste quand même un gros problème.
Ah oui, bah oui.
À partir du moment où on a goûté à la galoute, c'est très difficile de la sortir de la tête, la galoute.
Alors oui et non. Non, je vais t'expliquer, tu as raison, mais en fait, oui et non, et je vais te dire pourquoi tu parles comme ça. Tu parles comme ça parce que, par exemple, tu es né, si je ne m'abuse, après le décret Crémieux.
42.
Heureusement.
Ah non. Le décret Crémieux, c'est 1870. Sur le chiffre exact?
Ben, je
l'ai trouvé.
Bon, c'est dans ces eaux-là, quoi, en tout cas.
Je suis pas si vieux que
ça. T'as vu ? Donc tu es né après le décret Crémieux.
Ouais,
Donc ça veut dire que quand tu es né en Algérie, tu étais français. Et donc tu avais une condition de vie, bon, pas trop mal. C'est pas du tout la même chose quand un juif est né en plein milieu d'un exil terrible où le simple fait d'être juif fait que tu vas te prendre des coups toutes les 5 minutes. Je ne dis pas que ça a empêché, je dis que la situation du juif avant la Révolution française est quand même sacrément moins bonne que la situation du juif à partir du moment où il a reçu l'émancipation, l'égalité des droits, la citoyenneté, et ainsi de suite. Donc bien sûr qu'il y a encore de l'antisémitisme, mais le fait que...
Excuse-moi, ce que je veux dire quand même, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr chacun il a souffert de tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que... ce qu'on a appris là-bas, ce qu'on a appris en Galoute, même quand on vit en Israël.
Je suis d'accord avec toi. Je dis simplement que c'est parce que tu as vécu. Je suis d'accord avec toi. Je dis que c'est parce que tu as vécu à la fin de la Galoute où la Galoute a arrêté d'être invivable. Mais si on avait eu cette discussion avant que la Galoute ne devienne un peu meilleure et qu'on serait resté en plein milieu des croisades. Ben, je peux t'assurer que tu n'aurais eu aucun mal à quitter la Galoute. C'est-à-dire qu'au moment où la Galoute elle est invivable pour les Juifs, ben, c'est un gamour de la quitter. Mais à chaque fois qu'on va arriver à la Géoula, avant la Géoula, la Galoute devient sympa. Comme en Égypte où l'esclavage a terminé avant qu'on sorte d'Égypte, comme à l'époque grecque où ben, y a eu toute une période où c'était sympa d'être juif, les Grecs nous toléraient, et aujourd'hui, ou pendant près de 150 ans avant la Géoula, ben, la condition des Juifs s'est améliorée. Pourquoi ? Ben, parce que Dieu il veut qu'on veuille sortir d'Égypte, d'Égypte et d'exil. Pas qu'on soit obligé, mais qu'on veuille sortir d'exil. Okay ? Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu veux fuir, c'est parce que c'est idéalement bien de sortir. Ben, tu as raison que dans la mesure où la Galoute devient sympa, entre guillemets évidemment, bah c'est dur de quitter et d'annuler tout ça. Et donc on comprend la phrase de Manitou qui disait c'est plus facile de faire sortir un juif d'exil que de faire sortir l'exil du juif. Miyeridat a olam ve ashpalat aneshama a israelit. Nakhon, tout à fait.
La Bible est pas loin.
Miyerida, mais il faut pas non plus ne pas faire la kashrut. Miyerida ta'ola. Ve'ashpalat ha'neshama ha'israelit. Donc c'est quoi ça? C'est l'exil. Nifrad ha'yichud ha'elyon mimekor achduto. Ve'ala lema'ala la'arakia la'shchakim. Depuis l'exil, ha'yichud ha'elyon, il s'est séparé du Yehud Tarton. En d'autres termes, Israël, il est là, mais il n'arrive pas à dévoiler ce qu'est Israël Béhemet. Et donc, il est parti où, ce Yehud Elion ? Il est parti Barakia. C'est-à-dire qu'il y a Adain Israël, Abalba Elionim, dans les mondes supérieurs. Et c'est ce qui est mis en avant Ba'olam Achaim lo yofia ki im nige'e azarurit shel ha'yichud ha'tachton. Et ce qui se voit ici, ce n'est que bah, les derniers vestiges du Yehud Tarton. Ah, c'est plus du tout aussi élevé qu'avant. Hanish'av me'aborot ha'she'uvim ve'yad zarim bonogat. Et dans ce Yehud Tarton, on a dit, il y a l'influence d'autres cultures. Zeh Yehud ha'tachton. Donc, puisqu'il y a l'influence des autres cultures, Azmana c'est. Alors, que faire? Ukneset Israël tachil vetizak bechavalea. Mazé. Mazé. Israël crie cette douleur-là. C'est quoi la douleur? C'est que nous, on sait ce qu'on doit faire et on voit à quel point on ne peut pas le faire. C'est terrible. Ok? Et on te dit, Anishav mi borot sheuvim, c'est-à-dire, c'est mamash, c'est pas de chez nous, quoi. On est shoavim et zeb et makom acher. Et là, regardez ce qu'il nous dit, le Rav Kook. Oy na li ki ayefa nafshi. Vas-y, c'est Sefer Yov. Oy na li ki ayefa nafshi. Liot ayef, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui aurait une fatigue physique et qui serait en train de bâiller ou qui aurait les yeux qui se ferment. Ça n'a rien à voir. Comment on dit être fatigué physiquement en hébreu juif? Pas en hébreu moderne de l'Ulpan.
Fatigué physiquement?
Ouais.
Ah,
c'est... Comment tu dis? Oui, à l'Ulpan, tu dis Ayef. Mais qu'est-ce que tu dis tous les matins dans ta tfila? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech ha'olam, anoten. De qui? Ah,
quoi?
Non, mais j'ai bien compris que tu lui donnes quoi? Mais à qui tu donnes quoi? Ya'ef. La Ya'ef, quoi? Et non pas la Ayef. Eh ben oui, fais attention à ce qu'on dit le matin. Tous les matins. T'as vu, on est encore trop fatigué à ce moment-là. Il y a une différence entre Ayef et Ya'ef. On a inversé le Yud et le Aïn. D'accord? Alors, quand on veut dire fatigué physiquement, c'est Ya'ef. Et donc, on demande tous les matins que Dieu nous donne à la Ya'ef, Koach. Mais celui qui est Ayef, c'est Ayefa Nafshi. C'est la Neshama. Ok? Alors oui, en hébreu moderne, on dit Ayef pour tout le monde, mais c'est important de savoir qu'est-ce que c'est pour de vrai. Et donc on te dit Ayefa Nafshi. Razé Torah lachitsonim nimsaru. Oh waouh. Bagalout, les secrets de la Torah ont été donnés à des étrangers. C'est de qui il parle? De quoi il parle? Oui, mais de quoi il parle exactement? Ah, la traduction de la Torah en grec, c'est pas ça. Parce que ça, c'est quand la Torah chez Birtav, la Zarim Nimtzera. Mais c'est pas Razé Torah. Razé Torah, c'est Torah Takabala, les secrets de la Torah. Donc quand est-ce que c'est arrivé que les secrets de la Torah ont été donnés aux étrangers? C'est avant Madonna, le christianisme. Le christianisme. Le christianisme, c'est Razé Torah qui sont tombés dans des oreilles qu'il ne fallait pas. Arrête, c'est quoi la base de la théologie chrétienne? C'est que Jésus, c'est qui?
C'est
Non. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Hein, dis-moi, Bémet, d'où ils ont pris ça? Toi aussi, tu es ton fils. Et pourtant, on se prosterne pas devant toi. On se prosterne pas devant toi.
Devant tout le monde.
Devant toi et tout le monde, on se prosterne.
Je suis celui qui est proche de la
côte. On se prosterne devant lui?
Pardon?
On se prosterne devant lui?
On se met par terre le plus bas possible.
Devant le rabbin?
Devant.
Ah, devant Dieu? Ah, donc pas devant son fils. D'où ils ont pu arriver à une théologie comme ça, où il y a un bonhomme, c'est le Fils de Dieu? Parce qu'ils ont lu dans la Torah, Béni Bechori Israël. C'est marqué dans la Torah. Aval, un juif, quand il entend Béni Bechori Israël, il comprend bien que c'est pas moi physiquement de son. Mais quand tu dis ça dans une oreille païenne de l'époque, ben on prend un bonhomme, on en fait le Fils de Dieu. Tu comprends? Donc, Razé Torah, la chitsonim nimseru. Et à ce moment-là, à Torah nisrefet. À Torah nisrefet, gvilim. Gvilea nisrafim ve'otiyot porchot. Levnei tzion ayekarim efer tachat per usam. Alors c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de gvilim nisrafim ve'otiyot porchot ba'avir? Vas-y. D'où le Rav qui prend cette image, qui est une image terrible. Le parchemin brûle et les lettres s'envolent. Pas Rabbi Akiva, mais c'est dans la même équipe. C'est Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, qui fait partie de Asara Arugé Malchut, la façon dont il a été tué est une façon terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, qu'est-ce qu'on lui a fait, les Romains? Ils l'ont entouré d'un Sefer Torah, en mettant bien de la laine entre lui et le Sefer Torah, mouillé, ça prenne plus de temps, et ils ont allumé. Et donc ça met du temps, c'est terrible, parce qu'il est brûlé vivant, et il ne meurt pas tout de suite. Et à ce moment-là, il y a eu un laps de temps, je ne sais pas combien, où il était dans les flammes, mais encore en vie, et ses élèves, qui sont en face de lui, lui disent « Mais qu'est-ce que tu vois ?» Et il répond « Je vois Gvilim Nisrafim Veotiot Porchot Ba'avir. » Je vois le parchemin brûlé, mais les lettres s'envolent.
C'est rapporté à ce
Midrash. Oui, c'est dans le Midrash de Ele Eskera. On lit à Yom Kippour. Ele Eskera. Sur les Asara ou Yemalchut. Et c'est quand même dans Gittin. Ah, il faut que vous lisez pas. Ah non, quand vous lisez Tchaber. Bekitsour, non, on lit à Yom Kippourim. Tu as raison. Bekitsour, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi cette histoire?
C'est quoi
les Indiens? Et puis d'abord, il a fait quoi pour ça? Je veux dire, c'est quand même une punition. Hein? Alors tu vas me dire, non, c'est Asara Arugé Malchut. Oui. Il a rien fait de mal. Moshe, il a posé la question. Pour Rabbi Akiva. Et la réponse, c'est quoi? C'est, tu peux pas comprendre, moi j'ai une idée. Mais ça, c'est pour Rabbi Akiva. On pose la question pour tous. Et à propos de Rabbi Hanina ben Teradion, il y a une réponse.
On dit en l'occurrence qu'ils ont piqué les Gilgulim, les 10 frères qui ont vendu Yosef.
Inechidami. Mais ça, c'est pas nous qui disons. C'est le Goy qui dit ça. Là-bas. Dans le Midrash, dans la Gemara, c'est le Goy qui dit, le Romain, qui dit c'est à cause de Mechirat Yosef que ce qui vous arrive, ce qui vous arrive. Ce qui est d'ailleurs évidemment faux, parce que, enfin, il n'a pas pu dire ça à qui que ce soit. Les Asara Arugé Malchut, ils ne sont pas contemporains. Ils s'étendent sur plus de 100, à peu près 100 ans de différence. On ne sait pas. Mais, il y a une vraie responsabilité quelque part. Et pour Rabbi Hanina ben Teradion, la question est posée et on donne une réponse. Lama, il a mérité ça. C'est quand même une mort terrible. Il dit parce que Aya Oge et Hashem Beotiotav. C'est Oge et Hashem Beotiotav. Il disait le nom de Dieu, le tétragramme, tel qu'il est marqué.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Bah toi, quand tu vois Yudke Vavke, tu dis Adonai. Oui, le Pshene. Quand tu lis, tu fais dans ton air. Voilà, la vraie prononciation du tétragramme.
Que l'on relit dans nos sidourim avec la vocalisation qu'il y a.
Oui.
C'est pas le vrai nom de.
Oui. Bah, la prononciation de Yudke Vavke.
Le vrai nom pour moi, c'est le chef.
Non, absolument. Yudke Vavke. Le tétragramme. C'est ça. Maintenant, la question, elle est là, elle s'arrête pas là. Elle dit, attends. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que Aoge et Hashem beotiotav en lo chelek leolam haba. Donc, tu vas pas me dire que Rabbi Hanina ben Teradion, quoi, il a pas étudié. Alors, on dit non, il faisait ça pour les Itlamed, pour apprendre. Il voulait apprendre. C'est quoi la prononciation du tétragramme? Ah, que des Itlamed mutav. Par exemple, je veux rentrer au Sanhedrin. Il y a une place vacante au Sanhedrin. J'aimerais bien passer des examens pour me sanhedriser. Bon, d'accord, pas de problème, mais pour te sanhedriser, il faut que tu passes aussi un examen parmi les différentes épreuves. Tu as une épreuve en Halakha, une épreuve en Gomara, une épreuve en Rav Kook, ok? Et puis tu as une épreuve aussi en sorcellerie. Ah bah oui! Ah, nous dit le Rambam. Tous les membres du Sanhedrin doivent connaître toutes les sorcelleries, les kshafim qu'il y a à leur époque. Ben voilà, pour savoir d'abord reconnaître si quelqu'un en fait pour la doune et pour savoir que. Donc tu es bien obligé d'apprendre. Ah, tu n'as pas le droit de faire de la sorcellerie. Mais si c'est pour apprendre, c'est bien salaire. Donc pareil pour la gote et ta chembe au tiotav. Tu as le droit pour apprendre. Alors pourquoi on lui en tient rigueur? Diagmara, parce qu'il faisait ça befaresia. Au lieu de faire ça chez lui dans sa chambre, il faisait ça dehors. Et donc les goyim, ils entendaient ça. Il dit, mais pourquoi il a fait ça? Il dit, parce que Rabbi Hanina ben Teradion, il voulait amener la Géoula. Arémazé le tétragramme. Je ne vais pas commencer à vous le prononcer. Mais vous savez que c'est du futur. C'est-à-dire que c'est un nom divin qui reflète une dimension qui n'est pas encore là. Ça commence par un Yud. C'est la dimension du futur. Donc si tu veux dévoiler quelque chose dans le présent, mais qui n'est pas encore de la dimension du présent, c'est-à-dire tu vas amener la Géoula trop tôt, c'est pas le moment, ça peut avoir des conséquences terribles. Donc c'est ça que nous dit ici le Rav Kook. C'est-à-dire, Vebasov, PR, FR, Sricha, Tachat, PR. Il y a eu la cendre à la place de l'éclat. Et ça, c'est toute notre réalité durant l'exil. Les amis, deuxième mi-temps de la Pisca Yud. Je ne sais pas, dans la cuisine ou dehors, hein, où vous voulez, quoi. Bekitso, on fait la pause. Et ensuite, la deuxième mi-temps de la Pisca Yud. C'est parti.